Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre 2030 glorieuses Utopie vivante, j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui, comme moi, ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur, mais aussi de raconter ce changement. Parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure, et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast 2030 Glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
On va passer, comme je vous l'ai dit, 45 minutes ensemble. C'est la continuité des 2030 Glorieuses, ce podcast que j'anime. Coucou Marie.
Coucou.
On s'était parlé, nous, il y a plus d'un an, dans le cadre du podcast 2030 Glorieuses. Une grosse année, on va dire. On avait effectivement eu cet échange absolument passionnant, puisque dans le podcast 2030 Glorieuses, je donne la parole à celles et ceux qui font les métiers de demain. Et Marie, elle nous avait raconté son métier d'enseignante, directrice d'école, tout ce qu'elle faisait dans l'école, tout ce qu'elle faisait avec les enfants, tout ce qu'elle faisait avec les autres enseignants, tout ce qu'elle faisait avec les parents, pour transformer les choses à son échelle et réussir à faire en sorte que l'action individuelle puisse se joindre à l'action collective. On va parler du pouvoir des imaginaires avec Marie. Si j'ai pas envie de revenir exactement dans le détail de tout ce qui nous occupe au présent, j'ai quand même envie d'explorer avec toi, et ce sera vraiment notre fil conducteur, pourquoi tu t'es rendu compte que agir c'était important, mais que c'était nécessairement complété par le fait de raconter toute ton action. Tu l'as fait très bien avec le compte des petits écolos, qui est hyper établi, connu, renommé, sur lequel tu partages tout un tas de tes réflexions, tes actions, et tu donnes à voir, je trouve, une belle version de toi-même, sans faux-semblant, en essayant d'y mettre de la complexité. Et surtout, 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 tu as sorti un livre qui est ici, avec moi, et dont je vois passer tellement de retours. Est-ce qu'on peut commencer et tu me racontes ça un peu, comment ça se passe, la sortie de ton bouquin, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça a provoqué ces derniers mois, là ?
Écoute, j'ai encore du mal à prendre du recul avec mon livre. Et c'est vrai que quand je vois les retours, j'ai un peu du mal à les recevoir dans leur entièreté. J'ai toujours l'impression que les gens exagèrent et je me rends pas trop compte de ce pouvoir inspirant que je peux avoir, je pense. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, t'es inspirante. Mais en fait, je me sens tellement être une personne lambda dans la vie que c'est vrai que j'ai du mal à recevoir tous ces compliments. Ce livre, je l'ai écrit, c'est un peu mon bébé, enfin je l'ai un peu accouché, c'est vrai qu'on dit souvent ça, c'est un peu comme un bébé. J'ai vraiment eu aucun mal à l'écrire, ça a été vraiment une partie de plaisir et ben je réalise pas trop encore ce qui j'arrive pas à prendre du recul et j'ai tellement eu de retours aussi, je m'y attendais pas. Ben j'avais très très peur, j'angoissais quelques jours avant la sortie du livre et finalement ça se passe très bien. Il part en réimpression demain. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Voilà. Je suis un peu émue aussi d'en parler parce que c'est vrai que c'est 10 ans de ma vie, en fait. Mais ce qu'il faut que les gens se disent, c'est que quand on lit un bouquin, c'est vrai, je pense qu'on peut le lire en 3-4 heures, On a l'impression qu'il se passe tout le temps plein de trucs, alors que dans la vie, c'est comme ça représente 10 ans de ma vie, et ça s'est pas fait en si condensé que ça. Il y a eu des mois de vide, des mois d'adaptation. C'est un peu ça. L'écologie, c'est souvent représenté comme une échelle ou comme un escalier à grimper. Et parfois, il y a des marches qui sont très faciles à monter, des petites marches. Et puis des fois, c'est plat pendant longtemps. Et c'est vrai que quand on lit un livre où il y a tout plein d'actions, j'avais pas envie que ça entraîne de la culpabilité, de la pression. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est pas évident non plus. Même moi, en regardant certains comptes, des fois, je me dis, mais t'es pas assez, tu fais pas assez. Mais voilà, faut aussi accepter que je suis maman de 3 enfants et que... Bah, on peut pas. Toi, tu dis que j'ai plein de casquettes, mais moi, je trouve que. Bah, voilà. Ce soir, tous les deux, on était invités au resto, à la primaire populaire. Et bah, tu vois, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire, mais il faudrait une deuxième vie.
Ouais, c'est ça. Il faut accepter de dire non à tout un tas de choses, on est d'accord. Pour être dans cet engagement qui est la primaire populaire, que je t'ai vu d'ailleurs pas mal relayer et qui, eux, ont bien compris l'importance du récit. Hein. Dans la mise en image, dans la manière de raconter l'histoire face à tout ce qui est en train de se passer. On pourra en reparler si tu veux, mais si tu veux bien, si ça ne te dérange pas, après tu me dis hein, jusqu'à quel point tu as envie de t'étendre là-dessus, Marie. Mais un livre, c'est pas anodin quand même. En plus, tu m'as fait l'honneur de me demander d'y accoler une petite phrase, et donc tu me l'avais envoyé très rapidement. Et moi, je t'avoue que j'avais aussi un peu peur quand tu me l'as envoyé.
J'avais hyper peur de te le demander, mais en fait, ce qui est super rigolo, c'est que une nuit, j'ai rêvé que tu faisais un commentaire sur mon livre. J'en ai rêvé, en fait. Et genre une semaine après, mon éditeur me dit on a écouté ton podcast avec Julien Vidal, les 2030 Glorieuses. Est-ce que tu penses qu'il serait d'accord pour écrire un avis sur le livre? Et là, je me dis, ouais, OK. En fait, c'est peut-être que voilà, ça fait 2 fois que j'ai un signe qui va dans ce sens. Oser lui demander. Et du coup, merci. Merci d'avoir accepté de le lire en avant-première.
Et c'est quand je l'ai lu, je crois que, franchement, je l'ai lu, comme tu le dis, en 3 heures. Donc, moi, je suis très content de le lire. J'avais l'impression qu'on avait une conversation en buvant un thé, en fait, et que tu me racontais un peu comment s'était passé tes dernières années. J'avais l'impression de ça. J'avais l'impression que tu étais à côté de moi et que tu me racontais cette histoire. C'est un retour qu'on m'a souvent fait sur mon premier bouquin. Et en tout cas, ce côté de proximité, tu as vachement bien réussi à le retranscrire. Et je crois que d'ailleurs, dans les nombreux commentaires qu'on t'a fait, c'est souvent ce qui transparaît, non? C'est le côté un peu copine, voisine ou grande sœur, je ne sais pas, mais que ouais, tu arrives à faire ce discours simplement, sans te mettre sur un piédestal, sans te mettre en hauteur par rapport à l'autre, sans que l'autre se sente en position d'apprenant et toi en tant que sachante. T'as réussi à faire en sorte d'aplatir un peu la relation avec le lecteur et avec l'électrice. Comment tu expliques ça?
Je pense que j'explique ça parce que je suis quelqu'un qui a des difficultés à être fière d'elle. J'ai du mal à être fière de moi, de ce que je fais, et je vise toujours autre chose. Tu vois, là, tant que je ne serai pas dans le Larzac avec mes petits moutons, ben, je ne me sentirais pas encore... C'est pas suffisamment écolo, mais j'ai l'impression d'avoir toujours un chemin à découvrir et que l'écologie, c'est infini, finalement. Du coup, ça me permet peut-être de rester humble. Et aussi, c'est de se dire que la représentation que les gens ont de l'écologie, parfois, c'est pas la bonne. En fait, être écolo, c'est pas seulement arrêter d'aller à McDo ou arrêter de faire du shopping. Une fois, avec mon mari, on revenait de vacances et je disais, tu te rends compte, tout ce qu'il consomme, rien. Et il me dit, oui, ok, ils consomment beaucoup, mais ils gagnent quasiment pas d'argent. Ils ont jamais pris l'avion, ils ont qu'une voiture pour deux, il y en a qu'un qui travaille. Et en fait, être écolo, c'est pas seulement un titre, en fait, c'est un poids carbone. Finalement, les gens les plus écolos, bah, c'est malheureusement ceux qui sont dans la rue, les plus pauvres, ils ont même pas le choix d'être écolo. Et donc, c'est vraiment une remise en question permanente et nous, on se sent pas, C'est pas parce qu'on a un potager qu'on est écolo, c'est pas parce que on a notre argent dans une banque verte qu'on est écolo. On se sent, même parfois, je dirais que j'ai l'impression d'avoir un syndrome de l'imposteur parce que je sais pas si c'est le fait d'avoir les réseaux sociaux et de partager uniquement de l'écologie dessus. Et du coup, quand on regarde ce que je fais, on a l'impression que je fais que ça. Alors que dans la vraie vie, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être une question d'échelle de temps. C'est un concentré Instagram, mais ça représente peut-être 0,5% de ma vie. Je veux dire, quand je partage quatre stories de 10 secondes, ben au final, ça représente pas ma journée. Ce que je vis dans la journée, et surtout en ce moment-là, c'est surtout des angoisses liées au protocole sanitaire dans l'école. C'est pas... Et du coup, ça me permet de vachement prendre mes distances. J'ai quand même une maison individuelle que je chauffe et... Ouais, j'ai peut-être cette difficulté à me rendre compte de ce que je fais et de vouloir aller toujours plus loin. Donc, je me verrai jamais faire la morale à quelqu'un, quoi. Moi, mon rêve, c'est pas je rêverais là d'avoir toute cette conscience écologique et d'avoir 18 ans et d'habiter à Paris et de faire des manifs, d'aller avec Greenpeace, faire des grosses actions. Mais en fait, bah, c'est tout. J'ai un autre combat et pour l'instant, voilà, je ne peux pas être partout.
Il y a quelque chose quand même qui est un peu étonnant. Parce que d'un côté, tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur. D'un côté, tu dis que tu as l'impression que tu peux toujours faire mieux. Et tu as cette remise en question qui est permanente. Et d'un autre côté, depuis quand même quelques années maintenant, tu as décidé de t'afficher dans ta démarche. Tu as décidé de communiquer par rapport à ça. Et donc là, au-delà du livre qui vient de sortir, qui est quelque chose... que tu ne pourras jamais retirer, ça y est, il est en librairie et il y restera. Il y a des gens qui pourront encore acheter cette histoire, la trouver, pourquoi pas, dans une boîte à livres ou la trouver dans une librairie d'ici 10 ans. Tu vois. Mais pourquoi tu t'es dit, malgré tous mes doutes, malgré toutes mes questions, malgré ben voilà, tous ces pas en avant et ces pas en arrière, je vais quand même raconter ça sur les réseaux sociaux. Et où l'étincelle, tu vois.
Je pense que c'est parce que je sens que... Bah pour plein de trucs. Déjà parce que autour de nous, on n'a pas que des amis, des parents écolos, et que ça permet les réseaux sociaux de se sentir moins seul dans le combat. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a ça. Et dans les réflexions surtout. Ça me fait toujours hyper plaisir de lâcher des petits textes très forts avec des mots assez puissants et que derrière on me dise merci d'avoir mis en mots ce que je pense et de voir que c'est partagé par tout un tas de personnes. Je me dis bon ben oui voilà en fait je suis pas la seule à trouver que ben par exemple ce matin c'était une réflexion sur les machines. On a reçu des personnes qui habitent au Laos depuis 8 ans qui sont revenus en France pour voir leur famille. Je ne sais pas si tu as vu, donc c'est Wendy qui protège des éléphants dans un parc national au Laos. Et en fait, le fait de discuter avec eux et de discuter de nos modes de vie d'ici, de là-bas, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est rigolo, on n'a pas du tout le même rapport aux objets. Ils n'ont pas d'objets de décoration, ils savent se démerder tout le temps. Et c'est, on parlait de la machine. Et on parlait des toques des animaux, ce qui récupère des éléphants qui ont été dans des cirques ou qui ont été pris en captivité. Et Wendy me disait que quand ils récupéraient les éléphants avaient des toques. Ils faisaient ça avec leur tête, ils faisaient des mouvements répétitifs, etc. Et je disais, ah ouais, enfin, ça, je faisais le parallèle avec l'humain. Et Benoît, son mec me dit, bah nous, c'est pareil, on a des tocs en tant qu'humain, mais avec le pouce. Et je ne comprenais pas sur le coup. Puis il me fait, bah si, il me fait ça, un pouce qui scrolle en fait. Mmh. Et je me dis, ah ouais, et j'ai eu cette idée de poste sur les machines et la vie. Donc je le partage, boum, une petite bombe. Et voilà, le fait de voir que c'est une idée qui est partagée, que c'est des réflexions que les gens ont déjà eues, mais qui n'ont pas su mettre en mots. Ben, ça me fait plaisir. Et aussi, je me suis découvert sur les réseaux une passion pour l'écriture, un espèce de petit, je sais pas si on peut parler de talent, mais en tout cas, moi, ça me passionne d'essayer de mettre en mots tout ce que je ressens. Je suis hyper sensible dans la vie et le fait de pouvoir le mettre en mots, j'ai l'impression que ça calme un peu mes émotions, mon intérieur, ça m'aide.
J'entends plein de choses quand même. Hein. Tu me dis que si tu t'es exposé, tu as lancé cette démarche sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu avais un besoin de collectif, tu avais un besoin de partage, mais aussi d'avoir des retours, de sentir que tu appartenais à une communauté, même si elle n'était pas directement, physiquement proche. Tu me dis aussi que c'était le besoin de témoigner de ce que tu faisais, de ce que tu découvrais, mais aussi d'une certaine manière de mettre des mots sur ce que tu vivais. Parce que c'est vrai que parfois, on vit des choses et on est tellement dans l'instant d'après. Enfin, c'est vrai que la vie, elle nous chahute, elle nous bouscule, elle nous entraîne. On est toujours, toujours, toujours en train de penser, en train de faire, en train de réfléchir à ce qui vient après. Que des fois, on a un peu du mal à conscientiser, à digérer un peu ce qui se passe tout de suite et quel impact ça a sur nous et quel impact ça peut avoir sur tout un tas d'autres choses autour de nous. Et moi, je trouve que le fait de le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ensuite de l'écrire dans les livres, c'était un peu une digestion supplémentaire. Tu l'as vécu un peu comme ça. Quand j'ai écrit mon premier livre, pour moi, je me suis réapproprié cette année d'aventure extraordinaire que j'avais menée avec Ça commence par moi. Et j'avais enfin l'impression, en me repenchant dessus, en essayant de bien la transmettre, de bien l'organiser, de la revivre d'une certaine manière et d'en tirer tous les fruits a posteriori.
Ouais, mais on n'a pas le même type de compte, c'est-à-dire que ton compte à toi, il déborde pas, enfin, de ce que je vois moi, il déborde pas trop sur ta vie privée. En fait, on sait rien de ce... Voilà.
Non, c'est vrai.
Et en fait, c'est toute la différence avec moi. Et c'est pour ça que j'essaye aussi de me protéger parce que à plusieurs reprises, il m'est arrivé des trucs dans ma vie réelle à cause des réseaux sociaux, pas très rigolos, quoi. Tu vois, j'ai des parents d'élèves qui faisaient des recherches sur moi pour regarder ce que je faisais le week-end, pour regarder ce que je mangeais. Et je me suis retrouvée des fois dans des situations où j'arrivais plus à trouver la limite. Et en fait, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Et j'aime parler avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que moi pour me permettre d'avancer. Et qui ne me lisent pas de trop, tu vois. Quand je poste un truc et qu'on me dit « Ah, oh, génial, génial, génial !» et que j'ai 300 commentaires, « Je suis d'accord, je suis d'accord !» Mais en fait, c'est cool. Mais j'aime aussi avoir des commentaires de gens qui me disent « Ah, je sens que ce que tu écris, ça me met mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait travailler. » Et ça, c'est cool. Mais voilà, du coup, les réseaux, pour moi, j'essaie de redéfinir un petit peu mieux les choses, d'essayer de moins intégrer de vie personnelle, plus de réflexion, peut-être. Et je pense que la limite, elle est beaucoup plus définie dans ton cas que moi. Tu vois? Les podcasts, enfin, ça n'a rien à voir du coup avec des choses qui pourraient te mettre mal à l'aise dans ta vie privée. Tu es d'accord avec
D'ailleurs,
ça?
Tu parles du podcast, Marie? Est-ce que t'as repensé au 2030 Glorieuse depuis qu'on en a parlé? Est-ce que tu as voyagé à nouveau en 2030 Glorieuse? Tu t'y es projeté? T'as emmené des gens en 2030 Glorieuse? T'as ouvert ces conversations à nouveau? On avait parlé de plein de choses, nous, en 2030 Glorieuse. Toi, tu as laissé cette expérience dans cet échange qu'on a eu et puis tu es passé à autre chose ou tu es revenu?
Mais moi, j'ai l'impression presque qu'il y a un avant-podcast et un après-podcast. En fait, on s'était eu au téléphone et je m'étais un peu refusée d'en écouter trop parce que je voulais me laisser la spontanéité et un truc léger. Je voulais pas préparer les réponses. Et en fait, ça m'a vachement aidée parce que j'y pense pas non plus tous les jours. Mais en fait, quand je suis un peu perdue dans mes ambitions écologiques, etc., je me dis qu'en fait, ce podcast, il est extrêmement riche dans le sens où il aide à projeter demain, mais tout de suite. On parle souvent de transition, et dans le mot transition, t'as une espèce de, enfin, ça induit un temps long. Et le fait de se projeter en 2030 glorieuse, finalement, t'as envie, tu fais comme si tu y étais déjà, et ça induit l'action au jour d'aujourd'hui. On a plus envie de dire pour demain, pour demain, pour demain. On dit toujours la société de demain, et demain, on n'a qu'à faire demain tout de suite. Et du coup, ça m'aide beaucoup parce que quand je suis un peu bloquée dans une situation, ne serait-ce qu'à l'école, parce que je te disais, je suis plus à proximité de la forêt, j'essaie de me redéfinir par rapport à ça. Je me dis, ben, qu'est-ce que toi, t'as envie qu'il se passe en 2030? Comment t'imagines l'école de tes rêves? Et fais-le maintenant. Attends plus. Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidée et j'ai eu énormément de retours sur ce podcast, d'abonnés qui l'ont écouté, ou même une collègue qui est tombée dessus par hasard, elle me dit, attends, j'ai cru entendre ta voix. Et encore plus drôle, je suis allée en woofing en Normandie, avec ma famille, à la Toussaint, et j'ai rencontré Ulysse, avec qui t'as
Mais non, c'est vrai.
enregistré.
Ouais.
Et en fait, on était autour d'une table chez des maraîchers, donc chez les gens chez qui je faisais le bouffin, et on était en train de manger. Il me dit, c'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître. Je lui disais que, enfin, il me demandait ce que je faisais dans la vie, donc je lui disais que j'étais directrice d'école. Il me demandait des trucs, et il me dit, attends, en fait, je comprends, je reconnais ta voix. Et attends, tu n'aurais pas enregistré un podcast avec Julien? Il me dit, tu vas peut-être me trouver fou. Mais je dis, mais si, c'est trop drôle. Et du coup, j'ai écouté le sien et enfin, c'était dingue. C'était fou.
Ouais, c'est dingue hein, cette expérience. Ulysse, pour la petite parenthèse que tu mentionnes, Marie, Ulysse Blot, il a mené un projet qui s'appelle La Route en commune. Et donc, pendant un mois de mémoire, hein, il est allé voir des dizaines de maires à qui il a posé les mêmes questions. Ça a donné suite à une sorte de compte-rendu d'études que vous pouvez aller consulter pour comprendre le pouvoir du maire, pour comprendre la place aussi du territoire dans la transformation écologique et en l'occurrence toutes les limites actuellement qu'on a à ce niveau-là. C'est passionnant. Et ce questionnaire est en libre accès de mémoire aussi. Et si jamais vous voulez aller continuer le travail d'Ulysse avec la route en commune, poser la question à d'autres personnes, d'autres maires, tout est disponible. Vous pouvez contacter de notre part et puis reprendre son flambeau. Donc effectivement, c'est un bon.
Ouais,
J'avoue que
c'est trop drôle.
ouais,
Mais
c'était
c'est
assez
pour ça que je
marrant.
trouve ça hyper utile que toi aussi, t'aies réussi à mettre des mots et à poser les choses sur le papier. Parce que souvent, bah, le questionnaire justement que tu m'as fait remplir et que j'ai mis 8 mois à te rendre, en fait, souvent les gens, ils ont envie de changer et ils savent pas comment. Et ils se rendent compte de plus en plus que si on veut vraiment axer le changement, il faut s'investir dans son travail. Et c'est une pépite, en fait, ton livre, parce que du coup, ça donne un tas d'idées de métiers qui n'existent pas encore, et pourtant de gens qui font déjà ces choses au présent. J'attends, je l'arrache à mon mari, mais il est un peu à fond dedans, donc c'est pas facile de
Tu l'as
l'avoir.
pas eu, ouais, c'est ça. C'était quand même assez marrant
J'en
ton
ai
poste où
lu
tu dis, mais attends, je l'ai pas
quelques
reçu, je l'ai pas
extraits, et ce qui
reçu.
est cool aussi, c'est que tu peux faire
Ouais.
des allers-retours entre les chapitres.
Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est sympa.
Pour moi, le livre, c'est quand même un outil qui est tellement essentiel parce que tu vois, ce que j'ai vécu encore une fois, ce que je vis là depuis 2 ans avec les voyages en 2030 Glorieuses, j'ai quand même là rencontré plus de 50 personnes qui font des métiers qu'on fera toutes et tous demain, en fait, des métiers qui seront normaux, des métiers comme aujourd'hui, on connaît toutes et tous des comptables, des, je sais pas, des agents de banque, des facteurs ou des bouchers. Demain, on connaîtra. Bah voilà, les artisans upcyclers, les agricultrices et les agriculteurs urbains, les bergers urbains, enfin, il y a tout un tas de métiers que je présente. Et je sentais que si intuitivement, il y avait plein de choses qui se passaient dans ces podcasts, j'avais besoin de les redigérer et de les réorganiser. Je crois que c'est l'un des trucs dans lequel mon travail ou ma personnalité ou ce que je peux apporter a une vraie valeur. Le fait de reprendre tout un tas d'informations, de les resynthétiser et d'y donner un fil conducteur. Et là, en particulier, et je ne sais pas si jusqu'à quel point tu as envie d'en parler, même si je serais curieux d'avoir ton opinion, dans l'idée de savoir quand même, parce que mon gros constat de ces dernières années, c'est de me rendre compte que tout ce qui nous lie, toi tu parlais des machines tout à l'heure que tu as partagé dans un poste, c'est un moyen, mais finalement, tout ce qui nous lie, ce sont des histoires, ce sont des récits, c'est des choses qui, en fait, n'ont pas de prise concrète. On parle de la religion, qui est peut-être l'histoire numéro une qui arrive à lier le monde, largement aujourd'hui contestée par l'économie. Par l'économie de marché, par la mondialisation, par le mythe de l'argent, des choses comme ça, ce sont des histoires. Et en fait, toutes les histoires que j'ai partagées avec vous, tous ces voyages en 2030 Glorieuses, ça m'a fait me rendre compte que si toutes ces histoires aujourd'hui, elles étaient largement partagées et admises, en fait, on pouvait décider de les remplacer par d'autres histoires, par d'autres imaginaires, et pour le faire, il fallait les travailler, ces imaginaires. Donc, dans le livre dont tu parles, j'y avais vraiment cette envie de les retravailler et de les enchâsser dans un cadre qui nous parlait plus, notamment avec les élections présidentielles qui arrivent, où là, normalement, si on était dans une société saine, on serait en train de parler de comment augmenter la part de bonheur dans nos sociétés, comment travailler pour que on soit en meilleure santé, qu'on soit plus épanoui, qu'on laisse libre cours à notre créativité, à notre originalité, qu'on puisse apprendre tout au long de notre vie, qu'on puisse révéler les trésors de chacun des territoires sur lesquels on vit, qui font la France, etc., etc. Et malheureusement, c'est quand même assez fou, parce que là, d'avoir fait ce travail pendant 6 mois, de proposer la République du vivant, on parle beaucoup de sixième République, et on a du mal à quoi elle ressemblerait. Donc, je fais ce travail d'imaginer la sixième République qui serait la République du vivant, et de me rendre compte à quel point ça donne envie. Et on devrait parler que de ça, là, normalement. Et ben, en fait, j'ai beau tous les jours consacrer une demi-heure ou une heure à l'écoute de la vie politique actuelle et des élections présidentielles qui sont en train de se préparer, je n'entends jamais parler des sujets qui m'intéressent. J'entends jamais parler du bonheur. J'entends jamais parler des croissances de fraternité, des croissances de solidarité, des croissances de créativité, des croissances de la régénération du vivant. Tout ça, j'en entends jamais parler. Et ça me montre à quel point, si c'est d'un côté très désespérant cette absence de discours de la part de nos dirigeants économiques et politiques, à la fois, ça me montre à quel point on a ce pouvoir. Et donc, le travail que toi tu as fait avec ton bouquin, le travail que tu continues à faire en partageant tes réflexions sur les petits écolos, ce que j'essaie de faire avec mon livre, en fait, c'est quelque chose, comme tu le dis, toi tu te présentes comme une personne, comme Madame Tout-le-Monde, comme une personne lambda, ce que je suis franchement aussi. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de grandes études, je suis pas du tout politologue ou quoi que ce soit. Et pourtant, je pense que en y prenant un peu de temps, on arrive à avoir une position qui nous est très propre et une vision assez complexe, en fait, sur ces sujets-là. Et c'était vraiment aussi pour ça que j'avais envie de donner la parole aux gens comme toi dans le podcast et encore là ce soir, à travers ce live Instagram, montrer qu'en fait, on tâtonne tous, on est tous des êtres humains, on a tous notre quotidien et les enfants qui crient et l'appartement en bordel, je ne vous montrerai pas. Et pourtant, on est capable aussi de proposer des choses où, en fait, desquelles on nous a retiré le pouvoir et on nous a dit qu'à part le pouvoir d'achat et de continuer à consommer, on était bon à rien. Je refute ça, je pense qu'on peut raconter plein de trucs et on peut reprendre ce pouvoir qui est essentiel. Tu le fais bien et du coup, rien que pour ça, je pense que ça méritait qu'on se le dise et que je te félicite encore par rapport à ça et qu'on se rende compte à quel point c'était important. Toi, tu le dirais comment avec tes mots et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte que ce que tu racontais, c'était peut-être même plus important que ce que tu faisais? Est-ce que tu as eu ce moment-là, tu as eu cette épiphanie-là, où finalement, non, c'est très inné, c'est très intuitif, et tu continues à le faire parce que ça te paraît évident, presque comme de respirer.
Je ne sais pas trop. Moi, l'écriture, c'est un peu comme une pulsion. Et les posts, je les écris en moins de 3 minutes, en fait. Ça, on parle et tac, ça sort. Et voilà. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de réflexions. Et je pense qu'on est nombreux à attendre qu'un discours politique inclut le bonheur un peu. Ouais, je sais pas. En fait, en parallèle de tout le travail sur l'écologie, je me suis rendu compte que j'étais hypersensible et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie à comprendre beaucoup de choses. Et notamment, peut-être qu'il y avait pas deux sortes de personnes à opposer, hein, mais simplement à. J'ai été en colère à un moment donné, je pense, au début de ma rencontre avec l'écologie, parce que j'étais indignée de voir que pas grand monde réagissait, même pas mes parents, et encore moins les politiques. Et j'étais en colère parce que je me disais, est-ce qu'ils savent? Pourquoi ils disent rien? Pourquoi ils nous cachent tout ça? Ça peut pas être que pour l'argent, on peut pas être aussi mauvais que ça. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, peut-être c'est une espèce de sensibilité qui leur manque, un attachement vivant, parce que je pense que enfin, ce qui définit un humain, c'est, comme je disais avec Wendy et Benoît il y a 2 jours, là, en rapport avec leur vie au Laos, en fait, c'est s'occuper de ses besoins primaires, de se chauffer, de manger, de réfléchir, de penser. Et j'ai vraiment l'impression que là, dans la société actuelle, moi, ce qui me rend folle, C'est que ben, ce qui est fondamental, finalement, passe au second plan et on fait tout pour nous. Tout est fait déjà. Donc, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, comment on va se chauffer. Ces problèmes élémentaires, c'est ces problèmes qu'on a besoin de se poser en tant qu'humain. On ne se les pose plus. Comme on se les pose plus parce que tous les besoins primaires sont comblés par cette société, on va aller chercher des besoins ailleurs. Et c'est plus des besoins fondamentaux en fait. Donc on va avoir des problèmes de vie qui n'ont rien à voir avec l'existentiel. Bah, c'est bien, si ça te fait rire, mais non, mais c'est passionnant de parler de tout ça
C'est fou, non, c'est
avec des
fou,
gens qui vivent dans la
mais ça me fait pas du
simplicité.
tout rire.
Non, mais je te vois sourire, mais je me doute que c'est. Du coup, c'est incroyable de parler avec des gens qui connaissent la culture française et qui vivent à l'autre bout du monde en toute simplicité. Et qui sont pas moins heureux, en fait. Souvent, on a des proches qui nous disent, mais honnêtement, allez, franchement, entre nous. Et puis, de toute façon, dans les podcasts ou dans les interviews avec les journalistes, c'est toujours ça. On termine par une question. Est-ce que vraiment, vous êtes pas un peu malheureux ou est-ce que ce régime écologique, ne vous frustre pas? Et en
C'est
fait,
ce qu'on pose
non.
comme question là, on te
Ouais,
demande
à
ça?
chaque fois on me demande est-ce que
C'est
c'est pas
vrai.
trop dur? Est-ce que c'est pas trop dur? Mais c'est des journalistes peut-être qui sont pas écolos dans leur vie perso et je le prends pas du tout mal parce que je me souviens que c'est ce que je pensais aussi et que j'ai été sensibilisée à l'écologie par des écolos heureux et que ça me semblait pas du tout aller ensemble ça, l'écologie et le bonheur. Alors qu'en fait si. Et en fait, quand on parle d'écologie à la télé, peut-être que ça va rejoindre ce que tu disais à l'instant, c'est souvent moins, hein, moins de viande, moins de chauffage, moins de vêtements, moins, moins, moins. Alors que c'est plutôt très nourrissant comme nourriture, l'écologie. Oui, ok, tu vas avoir moins de vêtements, mais enfin, tu vas pas aller dans les magasins pour aller acheter, mais tu vois, rien que là, cet après-midi, une demi-heure avant notre live, j'étais chez une amie pour récupérer les vêtements trop petits de ses gosses. Donc, ok, je suis pas allée passer une après-midi de solde, mais j'ai passé une trop bonne après-midi avec ma copine et on a refait le monde, en se filant des fringues. Et, enfin bref, tout ça pour dire que dans la tête des gens, l'écologie, c'est encore un régime. Et c'est dommage parce que, en fait, s'intéresser à l'écologie, c'est pas avoir moins, c'est peut-être retirer le superflu et s'intéresser à l'essentiel de la vie, l'essence. Alors oui, je vis encore dans une maison suffisamment grande, dans un confort pas du tout rudimentaire, mais en essayant de m'occuper de mes besoins primaires, comme en essayant bah, de manger ce que je sème. Eh ben, bah oui, en fait, c'est ça l'humanité. C'est de s'occuper de ses besoins primaires, avant tout. Et ça rend profondément heureux. Pas aller faire les magasins, pas ça comble un petit truc sur le moment. On va pas se le cacher. Oui, c'est cool d'avoir un vêtement tout repassé, tout beau, tout propre, qui sort du magasin, mais c'est très éphémère par rapport à la fierté que t'as de. Enfin. Tu vois, c'est encore ce rapport au temps qu'on n'a plus aujourd'hui. On n'a plus la patience. On clique, on commande, ça arrive. Et si ça arrive pas dans les 2 jours, on est vénère en fait parce qu'on nous apprend à tout avoir tout de suite. Et du coup, l'écologie, c'est aussi se reposer dans un temps long parce que voilà, la tomate, elle va pas arriver demain. Tu vas semer la graine et tu vas. C'est ça la vie en fait. C'est pas tout avoir tout de suite. Ça n'a aucun intérêt en fait. Et la frustration, elle fait partie du jeu, la frustration, elle fait partie de la vie, et tout avoir tout de suite, ça rend fou. Et après, du coup, je pense que c'est là que les tocs humains arrivent. Alors, ça se voit pas très concrètement comme les animaux, mais moi, je pense qu'on est assez toqués. Et même si moi, j'écoute pas trop les discours politiques, etc., ça me fout des crises d'angoisse. Mais tu vois, rien que aller dans une salle d'attente et voir tout le monde sur son téléphone, ben, tu vois, ça m'oppresse et je me dis, ah, ça fait peur, ça fait peur. Du coup, j'essaye de pas le sortir, j'essaye, je vais pas dire de montrer l'exemple hein, du tout, mais des fois je me sens dans l'inconfort de la situation et je me dis, je me repense à 2030 glorieuse et je me dis, qu'est-ce que toi tu veux dans le monde de demain? Ben, dans le monde de demain, j'aimerais bien que les gens ils se parlent dans les salles d'attente et qu'ils arrêtent de scroller dans les salles d'attente. Du coup, je range mon téléphone, je me promets de pas le sortir et je parle aux gens. Et ça, c'est super difficile.
Comment tu fais pour que les enfants ils arrivent à aborder ce temps long? Comment tu fais pour qu'ils arrivent à aborder cette frustration? Comment tu fais pour qu'ils arrivent à penser à ce qui peut venir après et qu'ils peuvent le rêver et qu'ils peuvent le décider?
Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins difficile pour mes enfants parce qu'ils sont nés quasiment là-dedans avec mes réflexions et mes remises en question. Et c'est vrai qu'un enfant qui sème une graine, le lendemain, il va aller voir, il va penser qu'elle est là, qu'elle a poussé, je veux dire, instantanément, parce qu'on lui dit que ça va pousser. Donc, ils n'ont pas le même rapport au temps que nous, ni à l'espace d'ailleurs. Pour eux, la structuration d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois, c'est extrêmement compliqué pour un enfant de comprendre ça en termes de, enfin, je veux dire, de développement cérébral. Un enfant de 4 ans, il commence seulement à s'apercevoir que voilà, une journée, c'est ça. Alors, je sais pas, élever les enfants dans la patience, ben, c'est aussi les sensibiliser à l'ennui. J'ai l'impression, pour avoir discuté avec pas mal de collègues et d'amis et de gens comme ça, on veut toujours remplir le temps des enfants, les occuper. Pour être une bonne maman et un bon papa, il faut occuper toute la journée de l'enfant, réaliser des activités à la chaîne pour avoir la sensation d'être un bon parent. Ça, je le remarque. Et j'ai eu l'impression de peut-être d'être une mauvaise mère à un moment donné, en plein milieu de ma remise en question. Et finalement, laisser des temps d'ennui aux enfants, je pense que c'est extrêmement important, comme nous d'ailleurs. Toujours le problème du téléphone, mais on l'a même aux toilettes, quoi. On laisse plus notre cerveau se poser et faire le tri, comme tu disais tout à l'heure avec l'écriture, digérer en fait. Digérer ce qui se passe et le calmer, le vider en quelque sorte. On remplit tout le temps notre cerveau de plus, de plus, de plus. Et en fait, les enfants, je pense qu'ils ont vraiment besoin pour s'inventer des histoires et pour partir à la recherche de qui ils sont, qui ils aiment, ben de temps de rien. Et en fait, quand on les laisse sans rien du tout, moi, ça me fait trop marrer que je les regarde et ils sont en train de s'inventer des personnages assez flippants des fois. Mais ils extériorisent leurs émotions. Peut-être que quand il y a quelque chose qui les a énervés, ben c'est plus un pirate. Et quand ils se sentent apaisés, bon ben ils jouent, j'en sais rien, enfin j'ai pas d'exemple, mais ils se créent des histoires, ils s'inventent des personnages et ça les aide à savoir aussi qui ils sont. Donc je pense que le rapport au temps, il se travaille en laissant des temps de rien. Et c'est vrai que parfois avec la famille, ça les choque aussi, ça, parce que on partait en randonnée là avec ma belle famille pendant les vacances. De Noël, on partait en randonnée, on marchait. Donc jusque-là, tout va bien parce qu'on fait quelque chose. Et après, il y avait des bouts de bois et je me suis dit, on va peut-être s'arrêter puisqu'il y a plein de bois morts là. Je savais très bien ce que les enfants allaient faire. Et en fait, rien que s'arrêter pendant une randonnée, c'est difficile pour des adultes. On va faire quoi? Bah rien. En fait, on va s'asseoir et puis pendant une heure et demie, les gamins, ils ont fait une cabane. Et ça dérange de s'arrêter, de s'asseoir et de les laisser faire un truc. Il faut toujours qu'on soit en action. Alors qu'en fait, ce qui fait trop du bien, c'est peut-être aussi de regarder. Et tu vois, dans notre conversation, je pense qu'il y a pas mal de moments de blanc et de silence. Et c'est ça aussi qui permet de structurer la pensée et de laisser réfléchir les gens qui nous écoutent.
Je me rappelle pas mal de trucs de mon enfance et j'essaie de m'en servir. Mais moi, ce qui m'avait, par exemple, beaucoup, 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 beaucoup plu quand j'étais enfant, c'était le dessin et les Lego. Et c'est fou le temps que je passais à m'imaginer tout un tas de trucs avec le dessin, avec les Lego. J'avais la chance aussi d'habiter juste à côté de la montagne.
Regarde ce que j'ai dans les mains, tu vois. C'est pareil pour nos enfants.
Ah non, c'était ouf. Oui. On habitait juste à côté de la montagne. On partait, on avait un arbre sur lequel on pouvait s'accrocher, qu'on appelait l'arbre parachute. On faisait des trucs de ouf. On se faisait des skateboards qui descendaient les collines. On faisait, enfin, donc cette proximité à la nature et cette réduction de l'espace des écrans dans nos vies, c'est clair que c'est quelque chose qui me semble hyper important. Mais surtout, 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 j'ai l'impression que, et en fait, tu vois, quand je suis désolé, je reviens pas au livre pour le mettre en avant, mais quand j'écrivais le livre des 2030 glorieuses, je me posais la question de pourquoi, pour moi, c'était vraiment tellement ancré en moi cette histoire de se projeter, de se raconter des histoires, d'appartenir à des récits. Et je me rendais compte à quel point je m'en racontais tout le temps des histoires, tout le temps des histoires à travers les Legos, tout le temps des histoires à travers les dessins. Et j'ai réussi à remettre la main dessus. Je suis tellement content. Un livre de 365 histoires avec une histoire par jour que mes parents me lisaient avant d'aller me coucher, qui était tellement bien. Je me rappelle des dessins, je me rappelle de tout. Et du coup, je me rends compte à quel point on a besoin de se raconter ces histoires et que quand on se raconte ces histoires, on est acteur. Et ça aussi, c'est quelque chose de clé. C'est d'arriver à être actrice et acteur des histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte. Donc, quand on nous lit une histoire, on est acteur parce qu'on se projette. On s'imagine les personnages, on s'imagine les décors, on s'imagine les bruits, on s'imagine tout ça. Et donc, du coup, on n'est pas passif, on la subit pas, l'histoire. Comme on pourrait la subir quand on regarde une série, quand on regarde un film, quand on regarde quelque chose sur YouTube, où là, bah, c'est vrai qu'en fait, tout a été pré-mâché pour nous, donc c'est sûr que ça suscite des émotions, mais ça fait beaucoup moins appel à nous, notre capacité de nous mettre en mouvement et de nous incarner dans ces histoires. Et c'est pour ça aussi que j'adore le livre, parce que le livre, c'est pareil, c'est une coquille vide qu'on remplit. Même si toi, tu racontes ton histoire, même si moi, j'ai pu raconter mon histoire, derrière, ça nous relie à plein de choses qu'on a déjà vécues. Moi, un des commentaires que j'adorais quand on venait me parler, c'était qu'on me disait, mais en fait, tu sais quoi, ton livre, c'est moi, je l'ai déjà écrit ton livre. En fait, j'ai voulu l'écrire 1000 fois. Alors, je l'ai jamais vraiment écrit, mais j'aurais pu l'écrire parce que ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai pensé, ça, je le ressentais comme toi. Et donc, du coup, d'être ce véhicule pour que des personnes puissent se mettre en mouvement et continuer à avancer sur ces chemins, je trouve que c'est tellement puissant, tu vois. Et donc, c'est quelque chose pour boucler avec la question que tu m'as posée, que j'avais vraiment, vraiment envie de faire vivre à mon entourage, enfants, mais pas que enfants, parce que, comme tu le dis, moi, je vois les gens autour de moi qui, non, et j'en ai, je tombe encore trop souvent dans ce piège pour être un donneur de leçons, hein. Mais qui se réveillent le matin avec leur téléphone, qui se couchent le soir avec leur téléphone et qui passent tellement de temps derrière la télévision, même le week-end, un repas en famille, des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial d'arriver à continuer à alimenter cette capacité à rêver. Je pense que c'est ce qui fait le propre de l'être humain. Peut-être c'est notre singularité. En tout cas, on n'a pas réussi vraiment à trouver chez les animaux jusqu'à quel point ils ont cette capacité à rêver, à se créer des récits, à se créer des mythes. Et peut-être que c'est ça un peu le propre de l'être humain. Et du coup, c'est tellement précieux que, à mon sens, il faut vraiment réussir à y donner du poids, de l'importance, à continuer à chérir ça.
J'adore ce que tu dis parce que je pense qu'on a tous quelque chose en nous de très créatif et dans différents domaines. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis et ce qui est hyper inspirant pour moi, c'est que tu dis que depuis que tu es enfant, tu adores te raconter des histoires et finalement tu es devenu un raconteur d'histoires et aussi à écouter des histoires. Et ça prouve qu'en fait, quand on est enfant, on a profondément quelque chose qu'on aime, quelque chose de très créatif qui est là. Et que si on l'écoute, bah, ça peut donner des choses un peu fabuleuses quand on est adulte. Et c'est tout ce
Ouais,
qui
c'est fou.
fait que j'adore mon métier aujourd'hui. Je cherche juste la façon de le faire le plus en accord avec mes valeurs parce que je suis persuadée de ça aussi depuis que j'ai enseigné dans la forêt. Je suis persuadée que chaque enfant a un truc de fou en lui. Et seulement le problème de l'école, à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est pas encore l'école dont je rêve pour demain, c'est que, ben, quelque part, on essaye de faire des élèves un peu bons partout, mais sans vraiment écouter voilà, toi, c'était les histoires qui t'animaient. Et moi, j'ai remarqué en allant en forêt, en prenant le temps de vraiment regarder mes élèves, que bah, dans ma classe, j'avais une danseuse. Je mettais Jan Tiersen pendant les récrés sur mon enceinte. Et elle commençait à danser dans la forêt. Et je me suis dit, mais c'est fou, si je l'avais jamais emmenée, si je l'avais jamais regardée, je ne saurais même pas que c'est une ouf en danse, mais elle est trop forte, cette petite. et un autre un cascadeur et un autre un petit acteur, franchement, trop fort. Et voilà, c'est ça un peu que je reproche, c'est que je cherche comment à l'école essayer de trouver la pépite dans chaque enfant, la pépite dans laquelle lui il va se sentir super ultra compétent. Et une fois qu'il aura toute la confiance en lui, une fois qu'il aura exploité ce domaine, il pourra aller à la rencontre d'autres choses, peut-être les maths, le français, peu importe. Mais je pense que tant qu'on se sent pas tant qu'on n'a pas trouvé le domaine dans lequel on s'épanouit, on n'arrive pas à s'épanouir ailleurs. Donc ça sert à rien de faire des enfants moyens en tout. Il vaut mieux être super fort dans un domaine pour se sentir puissant et ensuite aller voir ailleurs. Et voilà, en fait, moi, j'ai pas su pendant des années et des années et des années que j'avais une passion folle pour l'écriture. Pourtant, quand j'étais petite, j'ai une tonne comme ça de journaux intimes de quand j'étais petite. Et depuis mes 6 ans, depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai écrit toute mon histoire depuis de mes 6 ans à mes 22 ans. J'ai écrit sur un journal intime. Donc, j'aurais pu le savoir avant, mais en fait, j'ai découvert ma passion pour l'écriture à 30 ans. Et voilà, moi, c'est l'écriture et toi, c'est les histoires. Et voilà, moi, j'aimerais tellement réussir à trouver toutes les clés pour que chaque enfant puisse, puisse trouver sa puissance. Et je pense que c'est ça, l'école de demain, qui me fait rêver, au-delà de l'écologie. Mais je pense que c'est très, très lié. Voilà, c'est ça. C'est là-dedans qu'en ce moment, je fais toutes mes recherches et ce qui fait très fort travailler mon esprit en ce moment. J'espère que je vais trouver et que je vais pouvoir faire bouger un peu les lignes de l'école sans prétention aucune parce qu'il y a du taf.
Salut, salut.
Salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut.